Avant de débuter cet échange, j'aimerais qu'on retourne un petit peu en enfance. Mmh. Et si vous me le permettez, en tant que vice-président de l'ingénierie chez Airbus, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer comment est-ce qu'on fait un bon tutoriel d'avion en papier.
Un bon tutoriel d'avion en papier, je vais vous faire marrer, mais moi les avions en papier, j'ai jamais été bon.
Tout débarre de là pourtant. C'est là où on voit les yeux ébahis d'un enfant.
C'est pas faux. Et j'ai pas mal chambré mes fils sur leur capacité à faire de l'avion en papier.
Ah.
Sachant que je me suis pris la baffe en retour.
Ça va être le moment. Ils vont peut-être se foutre de vous ou alors se foutre de moi. Parfait. Et ben on les pose sur la table et on voit à la fin de cet échange lequel des deux vole le mieux.
Ce sera le vôtre.
Mais avant ça, de quoi vous rêviez quand vous étiez petit?
Bah, si on se rapporte à l'aéronautique, moi c'était d'aller loin. En fait, j'ai grandi. Première étape, j'avais un oncle qui travaillait chez British Airways, un Anglais. Ma tante a épousé un Anglais et il était le chef d'escale de British Airways à l'île Maurice.
D'accord.
Et donc, on se voyait souvent. Ma tante était enceinte, elle ne pouvait pas bouger. Bon, du coup, c'est nous qui nous sommes déplacés de France à l'île Maurice. Ça a été ma première expérience aéronautique et j'ai vu ce que l'avion permettait, d'aller loin. Et donc on a pris un joli avion d'Air France qui nous a amené à La Réunion. Puis ensuite on a pris un tout petit machin, il a fallu monter avec les bagages sur la balance qui nous a amené de La Réunion à l'île Maurice. Ça c'était la fin des années 70, début des années 80. Et à ce moment-là, mon père s'est mis à prendre des leçons de pilotage en prime. Donc j'ai vu en plus avec mon père les petits avions. Ça a commencé un peu le rêve de se déplacer, le rêve de pouvoir aller ailleurs différemment, sachant que j'ai déjà habité en région parisienne, donc je prenais le train, le métro, toutes ces choses-là. Et s'en est suivi le fait que mon père a été muté à Tahiti. Et donc j'ai passé une partie de la fin de mon enfance et de mon adolescence à Tahiti. Et là, on s'aperçoit quand on est à 18 000 km sur territoire français, à 18 000 km de sa famille, qu'on a envie de retourner voir sa famille. Et on voit à quel point ce que l'avion peut nous apporter, le côté découverte. Au demeurant, en Polynésie, c'est des dizaines ou des centaines d'îles. À 10 ans, j'ai voulu rentrer seul parce que mes parents ne pouvaient pas rentrer pour Noël. Je voulais absolument aller passer Noël en famille. Donc on m'a mis une petite pancarte en plastique avec écrit UM dessus. Et j'ai fait 24 heures de vol tout seul pour rentrer à Paris.
Après les avions en papier, vous êtes diplômé de l'école polytechnique, diplômé de l'Institut aérospatial de l'ISAE, et vous devenez pilote d'avion agréé de l'armée française. Vous travaillez au sein des centres d'essai en vol pour le ministère de la Défense. Oui, je vous l'avoue, cette phrase a été beaucoup trop longue à apprendre, mais je l'ai apprise.
Pas mal, quoi.
Je me permets de vous demander, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus à ce moment-là de ce passage de votre vie?
Ouais, bah en fait, une fois que j'ai passé cette phase d'enfant, je ne voulais donc pas devenir pompier, je ne voulais pas devenir policier, je voulais devenir pilote. Parmi les clichés de ce qu'un gamin d'une dizaine d'années peut vouloir, moi c'était pilote. Et on m'a dit, il faut une bonne vue et il faut être bon en maths. Donc la bonne vue, on n'y peut pas forcément grand-chose, elle est restée bonne. Et bon en maths, bah, j'ai bossé. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais d'une famille plutôt scientifique, donc je me suis retrouvé peut-être un peu trop bon en maths, et je suis allé à Polytechnique où je me suis dit qu'en fait, c'était bien l'aéronautique qui m'intéressait, donc j'ai divergé. En sortie de Polytechnique, j'ai pris la voie qui permettait d'aller vers l'aéronautique, et en particulier de voler d'ailleurs, qui était super-héros, aujourd'hui l'ISAE. Et l'aéronautique, à cette époque-là, on était en crise, l'aéronautique n'embauchait pas beaucoup. Et je suis allé donc au ministère de la Défense. Et il y avait une possibilité de sortir de Polytechnique en étant militaire, ce qu'on appelle des ingénieurs de l'armement. On travaille pour la Direction Générale de l'Armement. Et dans cette Direction Générale de l'Armement, il y avait une entité magique qui était le Centre d'essai en vol. Ça a changé de nom depuis, mais c'est là que j'ai commencé ma carrière. Donc on était formés comme pilotes, qui était un peu une façon de nous donner un vernis aéronautique. Et puis après, en fait, on faisait des essais. Et donc, des essais en vol. La plupart du temps, on les faisait au sol, les essais en vol. Il y en avait d'autres dans l'avion et il y en avait beaucoup au sol. Mais ça m'est arrivé de voler aussi. En l'occurrence, moi, c'était des hélicoptères, mon rayon à cette époque-là.
Justement, après ça, vous travaillez au sein des programmes des giravions Tiger et Super Puma. Et vous êtes nommé ingénieur et chef de projet de développement du NH90. Comment est-ce qu'on passe de pilote à ingénieur?
En fait, j'étais ingénieur de base. Et j'ai été formé comme pilote. Les deux carrières se sont un peu suivies, mais mon métier principal, c'était ingénieur. On avait tous la même double formation, en quelque sorte, pilote et ingénieur. Certains, allaient plus vers la voie pilotage, et puis ensuite, on en retrouve maintenant pilote d'essai chez nous d'ailleurs, on en retrouve pilote chez Air France. D'autres, comme moi, on sont restés plus dans la voie ingénieur, et le pilotage nous donnait ce plaisir de voler, ça c'est une chose, et puis la bonne compréhension de ce qu'est le vol, parce qu'on a volé avec les commandes dans les mains. Et donc j'ai eu cette chance d'être formé pilote sur avion et ensuite d'aller dans l'armée de terre, quelques années plus tard, d'aller dans l'armée de terre, passer mon brevet de pilote d'hélicoptère de l'armée, en parallèle du fait d'avoir des activités d'essai en vol en tant qu'ingénieur.
Tiger, Super Puma, NH90, ce sont justement des hélicoptères. À quel moment vous passez aux avions ?
Ben en fait, j'ai fait une majorité de ma carrière aux hélicoptères et je suis passé aux avions il y a 4 ans. J'ai fait différents métiers, essai en vol, puis avec le NH90, plutôt un métier de chef de projet, ce qu'on appelle ingénieur en chef dans l'aéronautique, c'est-à-dire le responsable des activités de développement pour l'industrie, qui était Eurocopter à l'époque, maintenant Airbus Hélicopter. Et il y a 4 ans, je suis passé du côté avion, avec ces beaux produits-là, dont j'avais déjà été pas mal passager, mais... où j'ai pris la responsabilité des développements pour les avions.
Qu'est-ce qu'on peut avoir comme prétention quand on est ingénieur dans l'aéronautique ? Qu'est-ce qu'on peut encore faire évoluer dans ce domaine ?
On peut faire évoluer énormément de choses. On peut se ramener au début de l'aviation tout court, là, il y a plus d'un siècle. On se dit quand même la différence entre je sais pas moi, l'éole de Clément Ader, là, pour prendre des trucs, ou les frères Wright, et ce qu'ils faisaient voler et un 350 aujourd'hui, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Pourtant, ça s'appelle un avion. On peut aussi se ramener au début de l'aviation commerciale, il y a un peu plus de 50 ans, le début de l'ère du jet, du réacteur. L'avion a évolué beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens ont une mémoire courte, quelque part, et regardent les avions de ces 5-10 dernières années. Mais les évolutions qu'il y a eu dans ce domaine ont été absolument phénoménales. Pour arriver à la performance de l'avion, y compris d'ailleurs la performance environnementale. C'est un des sujets, je pense, sur lequel on viendra. Et on a encore beaucoup à faire. On peut regarder à la fois l'empreinte environnementale et l'équation économique d'un avion. On peut aussi regarder combien il y a de pilotes dans le cockpit. On voit les vieilles photos, là, un peu noir et blanc, avec... 4, 5 personnes dans le cockpit, bon, disons que le standard c'était plutôt 4, puis on est passé à 3, puis on est passé à 2. Quand on est passé à 2, on se dit pourquoi pas, hein. Après il y a l'espèce de fantasme qui est un fantasme en même temps qu'une crainte de l'avion sans pilote. Mais tout ça, ça a été des progrès qui sont venus petit à petit avec des petites ruptures technologiques, des grosses ruptures technologiques, de la sécurisation de l'avion, parce que c'est quand même avant tout ça, hein. On doit aux passagers de nos avions la sécurité. C'est les progrès de l'aviation depuis ces 50 dernières années. Et c'est aussi en même temps ce qu'il nous reste à faire. Toujours plus de sécurité, des avions toujours plus verts, parce qu'il y a bien une attente là-dedans. Donc je pense que ça a de quoi motiver.
Aller plus loin.
Oui.
Et justement, on parlait d'environnement. On entend de plus en plus parler dans l'industrie de l'avion zéro émission, notamment chez Airbus. Est-ce que c'est un objectif atteignable selon vous ?
Ah oui, c'est atteignable. Est-ce que c'est atteignable ? Oui. Est-ce que c'est atteignable facilement ? Non. Si c'était atteignable facilement, on y serait déjà, hein, de fait. Et oui, c'est un défi que l'aviation doit relever. Parce qu'on a beau être petit en termes d'émissions, on est très visible. Donc on est la proie d'une critique facile.
Mais c'est des ordres de grandeur que les gens n'imaginent pas. C'est ce qui m'a bluffé dans les reportages que j'ai regardés, c'est que 1 kilo de gagné par siège, si demain on remplace le fait de ne pas avoir besoin de kérosène lorsqu'on déplace l'avion au sol, plein de petites choses comme des échelles, c'est monstrueux.
On a des tas d'améliorations qui sont finalement dans la droite ligne de tout ce qu'on a fait pour l'aviation de ces dernières décennies, des tas de petites améliorations, tout se gagne par pourcent, quoi, hein. C'est comme ça qu'on a avancé, c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand on fait voler un A350, un long courrier sur une assez longue distance entre la France et l'Asie, et qu'il est correctement rempli, sans parler d'un avion plein, on est à moins de 2 litres au 100 par passager. Alors la comparaison litre au 100 par passager, qui est le classique de la voiture, elle est un petit peu tirée par les cheveux. Mais on a fait ces progrès-là à coup de pourcent. Aujourd'hui, on peut parler d'optimiser les trajectoires. On a tous fait des tours au-dessus de Roissy, on sait ce que c'est. Donc on peut parler d'optimiser les trajectoires de l'avion, d'avoir des avions qui ont des trajectoires beaucoup plus optimisées, qui attendent moins.
Avec un nouveau radar, grâce aux nouvelles technologies, c'est ce que j'avais regardé.
Avec toute la digitalisation du ciel qui permet des dialogues entre l'avion et le sol, qui sont des dialogues beaucoup plus digitaux. Aujourd'hui, on a quand même encore des pilotes qui racontent leur vie à la radio à un contrôleur aérien, éventuellement dans des langages qui ne sont pas leur langue maternelle. Enfin,
temps qu'on réponde, on a déjà un nouveau calcul et on est déjà en train de
faire. Il y a un certain nombre d'archaïsmes dans le trafic aérien. Je pense que là, on peut gagner beaucoup. Par contre, quand on va vers l'avion vert, là, on change complètement de crèmerie. On ne parle pas simplement d'optimiser de moins 1%, moins 2%, on parle juste de ne plus émettre. Et donc le Graal dans le domaine, c'est l'avion qui n'émet pas. Alors ça veut dire quoi émettre? Ça veut dire émettre du dioxyde de carbone qui est le plus visible de tous. Et donc notre part du boulot, c'est d'arriver à trouver une façon de rendre l'aviation neutre. Et j'allais dire à l'extrême de neutre, ça veut dire qu'on peut avoir du CO2 qui est émis par l'avion au lieu d'être émis par des déchets, par exemple. On le transforme en carburant et puis ensuite l'avion émet du CO2 certes, mais il aurait été émis quand même. À l'avion vert, zéro émission, où là, c'est la combustion de l'hydrogène, typiquement, où à bord de l'avion, au lieu d'embarquer du carburant, qui est une grosse chaîne de carbone, on embarque de l'hydrogène, on mélange l'hydrogène avec l'oxygène, ça fait de l'eau.
C'est fou, parce que on en entend parler dans l'automobile et autres, et l'hydrogène, ça paraît fabuleux, tout comme inatteignable. C'est ça qui est... On en entend tellement moins parler que l'électrique et autres, que pour le grand public, c'est assez difficile à comprendre.
Bah oui, parce que c'est pas si facile. L'hydrogène, c'est tout petit quand même. Hein. C'est la plus petite des molécules. C'est ce qu'on apprend assez rapidement en faisant de la chimie. C'est tout en haut à gauche, là, dans le tableau de...
je m'en souviens, je ne l'ai jamais, jamais retenu.
Il y a un à côté, parce qu'effectivement, il y a un proton dans le noyau et un électron qui tourne autour. Et donc l'hydrogène, c'est tout petit, ça fuit. Ça a tendance à se mélanger facilement avec l'oxygène, donc du coup à faire un peu de chaleur. Donc il y a une dimension sécurité. Pour l'emmener dans un avion, il faut sa phase liquide, parce que c'est celle qui a le volume le plus raisonnable, on va dire. La phase liquide, elle a besoin d'être stockée à moins 253 degrés, à 20 degrés Kelvin. Donc c'est un peu compliqué, c'est cryogénique. On sait faire. Mais c'est toujours un peu compliqué. Et pourquoi est-ce qu'on a plus entendu parler d'électricité, par exemple, ces dernières années, ces dernières décennies? C'est parce que pour les autres moyens de transport, la mission peut être faite quelque part avec de l'électricité. Enfin, moi, je roule en voiture électrique.
Moi aussi.
Et oui, c'est faisable. Alors, il faut adapter sa façon de rouler. Il faut faire attention. On fait attention différemment à aller à la pompe avec une voiture électrique. Mais ça le fait, quoi. La voiture électrique, elle peut, ça marche. Et avec la prochaine génération de batteries, grosso modo, on ne se posera plus tellement de questions de distance franchissable. Il va falloir que les gouvernements mettent un peu plus de points de recharge et incitent toutes les entreprises qui s'en occupent à mettre ce qui nous permet de charger nos voitures. Mais ça va marcher. Sauf que la densité d'énergie d'une batterie, elle ne vole pas. La densité d'énergie d'une batterie, le nombre de joules, de watts-heure,
enfin,
par kilo. Ça va dans une voiture, et encore dans nos voitures, enfin moi dans la mienne, il y a un tiers de la masse qui est au ras du sol, qui doit avoir 650 kg de batterie.
Et on se plaint déjà tous de ne pas avoir assez d'autonomie.
Et on se plaint de ne pas avoir assez d'autonomie. Sur un avion, ça ne marche pas, parce que l'avion, il faut qu'il décolle. Donc il a le théorème de la légèreté, c'est le théorème fondateur de l'aviation. Du coup, la batterie, on arrive à faire voler des avions avec des moteurs électriques et des batteries sur des assez petits formats. On l'a fait, nous, hein, chez Airbus. On a eu des beaux projets. Il y en a un qui s'appelait Cri-Cri à l'époque. Et puis ensuite, il y a eu un projet nommé IFAN. IFAN a traversé la Manche avec un moteur électrique, avec des batteries. C'est bien, mais c'est très limité en contenance. Et on ne peut pas imaginer un A320 voler avec des batteries. Donc, il a fallu changer de créneau et regarder un stockage d'énergie qui est le nombre d'énergie par kilo qui soit bien, bien meilleur que la batterie. La batterie, elle est quelque chose comme 20 fois en dessous du kérosène en densité d'énergie. L'hydrogène, il est 3 fois au-dessus. Donc en fait, l'hydrogène est pratique.
D'accord. C'est fou. Et quand on voit travailler justement toutes les équipes différentes, à la fois à l'intérieur de l'avion, à la fois à l'extérieur, sur les moteurs, sur les ailes, on peut aussi se poser la question, comment est-ce qu'on forme les ingénieurs de demain pour parvenir à ces objectifs-là ?
C'est une bonne question, comment est-ce qu'on forme les ingénieurs de demain ? Il y a une réponse facile qui est, on va les former comme hier, quoi, hein, on va faire comme on a toujours fait. Alors, une partie de la réponse est vraie, parce qu'il faut rester compétent là où on est compétent, il ne faut pas se lâcher des deux mains. On a un certain nombre de sciences fondamentales de l'aviation qui demeurent. Je veux dire, les lois de la physique, celles qui font voler un avion, elles ne vont pas changer parce que la digitalisation arrive ou parce qu'on a envie de faire de l'avion vert. On continue à avoir une portance pour faire voler l'avion, une traînée qui empêche l'avion d'avancer et une propulsion qui est fournie par les moteurs. Et tout ça, c'est assez basique. Et un poids, j'ai oublié la quatrième force qui est le poids. Ça ne change pas. En revanche, on, avec les nouvelles énergies notamment, et puis la digitalisation, ce que des puissances de calcul qui sont incomparables avec celles qui existaient au moment de la conception de la 320 par exemple, ce que tout ça apporte, il faut qu'on en profite. Et pour en profiter, il faut qu'on ait des ingénieurs avec des compétences évoluées, avec des compétences nouvelles. On peut citer deux domaines principaux qui sont la digitalisation au sens large. Derrière ça, il y a l'intelligence artificielle, il y a les calculs à haute puissance, puis il y a l'énergie et l'hydrogène et tous ces changements d'énergie, tout ce que ça peut signifier pour l'avion. Il faut avoir des gens compétents dans un domaine d'énergie nouvelle pour l'aviation en tout cas, en plus de nos métiers de base sur lesquels il faut rester bon.
Donc il faut à la fois que les nouveaux aient des bases, avec les nouvelles compétences, et à la fois que les anciens puissent acquérir les nouvelles compétences pour évoluer.
C'est un bon mélange, ouais. Et c'est une diversité de formations. Il faut avoir effectivement des gens peut-être plus classiques qui volent en aéroclub sur des vieux coucous, qui sont très fanas de l'aviation classique, hein, de l'avion avec des ailes et un fuselage, et puis des geeks, et puis des fanas du développement durable et des nouvelles énergies. C'est ce mélange-là, avec un mélange de compétences et un mélange de générations, qui fait, à mon avis, la force de frappe d'une entreprise comme la nôtre.
Il y a 20 ans, on faisait un Paris-New York en 3 heures avec le Concorde. Aujourd'hui, pour le même trajet, je dois mettre 8 heures. Pourquoi ? Est-ce que l'avion supersonique n'est pas arrivé jusqu'au grand public ?
Il y a beaucoup de questions derrière ça. Alors déjà, moi, ça m'arrache une larme parce que j'ai jamais pu voler dans Concorde et j'en aurais bien rêvé. Et quand j'étais au centre d'essais en vol et que le Concorde faisait ses essais après le tragique accident de Gonesse, il y a eu des essais de renforcement de réservoir et il est venu faire ses essais à Istres où je travaillais et je volais moi à l'époque. Et ça m'est arrivé de faire des vols d'accompagnement de Concorde, en tout cas avec des photographes à bord. Donc je l'ai vu voler de très près, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de monter à bord. Le supersonique, c'est compliqué parce que c'est un rêve de l'être humain qui veut encore une fois aller loin et le plus vite possible. Et donc c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui aux notions de tourisme spatial ou de vol suborbital. Mais c'est, d'un point de vue de l'efficacité énergétique et de la consommation, dans une période comme la nôtre, où on a une aspiration environnementale très forte, ça part dans l'autre sens. C'est-à-dire que le supersonique consomme beaucoup. C'est pas très efficace du point de vue de la quantité de carburant par passager. Alors une façon de s'en sortir, c'est de dire on va voler avec des biocarburants, donc on va être neutre. Bon, à la fin, l'énergie étant pas infinie, c'est quand même des solutions qui coûte en énergie. Et je pense que il y a un certain nombre de tentatives en cours. Il y a des entreprises, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, qui se dévoilent. Boom, Aérion, etc.
Exactement, à partir de 2029, Boom Supersonique annonce vouloir faire voler des passagers pour faire un Londres-New York en 3h30. Est-ce que pour vous, une telle performance est réalisable ?
Je pense que oui. La performance technique est réalisable. Mais c'est toujours la question de l'aviation, finalement. Pendant longtemps, on a été dans la performance. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin, il faut aller plus haut. C'est vrai.
On veut évoluer de tous les côtés.
C'est le quitus altius fortius des Romains. Et là, en même temps, il faut aller plus vert. on a besoin de mesurer notre empreinte environnementale complète. Et je suis, en tant que fanat d'aéronautique, un fanat du supersonique. Mais face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, au défi environnemental, je pense que ce n'est pas la solution.
Justement, moi, je connais un peu plus le milieu de l'automobile avec, par exemple, la Formule 1. Il y a des sponsors qui aident des écuries à se développer, à avoir toujours de meilleures performances grâce au budget, au financement. Et je me pose la question dans l'aviation, comment est-ce que vous trouvez les financements pour réaliser toutes ces innovations?
Les financements pour réaliser nos innovations, ils sont les nôtres. En gagnant notre argent en vendant nos avions, on dégage une certaine partie du chiffre d'affaires de l'entreprise pour faire de la recherche et développement. Au milieu de tout ça, on dégage un budget pour faire de l'innovation, pour être un peu plus audacieux. Bon, après, le terme innovation, il veut un peu tout et rien dire. Bien l'innovation, sûr. C'est une façon, si on le fait simple, c'est une façon d'amener la technologie au marché le plus vite possible. Donc, un nouvel entrant dans le milieu aura du mal à passer cette barrière-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Enfin, on a dans l'espace l'exemple de SpaceX, hein, qui est finalement un produit complexe aussi, où il y a eu une rupture, un nouvel entrant qui va plus vite, qui n'a pas forcément que investi son propre argent. Hein. C'est quand même le gouvernement américain en a financé une grosse partie. Mais ça a démontré qu'on pouvait faire rentrer un nouveau joueur sur un terrain de complexité technologique.
Et tout reprendre de zéro, pratiquement.
Et en partant à peu près de zéro. Donc ça pourrait être notre cas. On a tendance à penser, parce que le marché n'est pas non plus illimité, et parce qu'il y a cette dimension de sécurité, de transport des passagers, qui n'est pas nécessairement le cas au départ avec SpaceX, on a tendance à penser que oui, ça va se limiter aux existants, qui ne sont pas très nombreux, et puis la Chine qui arrive. Maintenant, un nouvel entrant pourrait nous déstabiliser. Je pense que les nouveaux arrivants sont plus à craindre sur le domaine des nouvelles énergies, où pas mal d'entreprises, ça bourgeonne dans le domaine du taxi aérien, de l'avion à l'hydrogène, etc. Là on en voit quand même arriver plutôt dans les petites tailles, où on prend peut-être un peu moins de risques. Justement, on n'est pas dans le transport de passagers. Et l'aviation commerciale, c'est quand même très, très, très réglementé. Et on accueille ça, parce que on pense que c'est plutôt une bonne chose. Et à la fin, c'est peut-être notre compétence, notre expérience et leur force de proposition qui feront le produit de demain.
Mais vous travaillez également au sein du GIFAS, qui est un regroupement. Pourquoi et qu'est-ce que permet justement un regroupement comme le GIFAS?
Le GIFAS, c'est un peu le regroupement des industries de l'aéronautique française. C'est ce qui permet aux entreprises d'un secteur donné de regarder leur marché ensemble, de regarder leur secteur ensemble, d'avoir une approche cohérente vis-à-vis des gouvernements, notamment quand il s'agit de réglementation, quand il s'agit d'être en crise et de discuter de subventions à la recherche. Ça a un peu été notre cas en 2020, typiquement. C'est vraiment le groupement d'un secteur qui a besoin de parler d'une voix parce qu'il y a en jeu la sécurité, le développement durable, tous ces enjeux-là sont appréciés par le GIFAS, qui a un bras armé qui s'appelle un bras armé pour la recherche qui s'appelle le CORAC. Et c'est là qu'on discute les feuilles de route de la recherche. D'accord. Pour l'industrie aéronautique française.
Et pour combien? 5, 10, 15, 20 prochaines années? Vous voyez ça?
Ah oui, on est une industrie à long cycle. Alors c'est
exactement.
En 10 ans, on peut se complexer un peu.
Parce qu'on ne change pas d'avion comme on change de voiture électrique.
Ni comme on change d'ordinateur, ni comme on change de téléphone. Il faut faire très attention à sécuriser tout ce qu'on implémente dans l'avion. Ça nous ralentit. Ça fait notre force, qui est notre sécurité, notre stabilité. Ça fait notre faiblesse, qui est qu'on a une forme de lenteur. Il faut arriver à vaincre cette lenteur. Et la recherche, quand on parle de recherche, effectivement, on parle toujours d'une prochaine génération d'avions à 10 ans, de la suivante 30 ans derrière, enfin 20 ou 30 ans derrière. C'est des cycles assez longs. Tout ça, c'est certifié. Donc, on ne remplace pas une carte de calculateur dans un avion par une autre en disant « Ah tiens, celui-là, il est plus puissant, il est plus sympa, je vais le mettre là. » Ça marche avec l'ordinateur dans le salon, ça ne marche pas avec l'avion. Il y a un certain nombre d'étapes à franchir. On ne va pas faire piloter l'avion par l'intelligence artificielle. En revanche, on pense à des aides aux pilotes, à des suggestions, à des choses qui puissent faciliter la vie du pilote, mais tout en laissant complètement la main aux pilotes et à l'équipage.
Quel est votre plus grand défi aujourd'hui?
Oh ben, je pense que le plus grand défi, c'est d'arriver à préparer la génération d'avions suivante qui soit au bon rendez-vous, c'est-à-dire au bon moment. Il ne faut pas oublier qu'on a de la concurrence. Donc, c'est de l'avion qui va arriver pas trop tard. Parce que si les concurrents sont sortis avec des avions de la génération suivante, eh ben, il faut qu'on soit là aussi. Et en même temps, qu'ils fassent face à tous nos défis, à commencer par le défi environnemental. Donc, avion à zéro émission, avion à neutralité carbone, toute la recherche, une grande partie de notre recherche aujourd'hui, elle est orientée vers ça. Quelle sera la solution pour l'avion de demain? On ne le sait pas encore. Parce qu'on fait de l'hydrogène, parce qu'on fait des moteurs plus efficaces, parce qu'on fait des nouvelles ailes. Tout ça, on fait de la recherche sur ces sujets-là en parallèle. Le défi, c'est de mettre tout ça ensemble pour faire l'avion de demain.
Jean-Brice Dumont, merci infiniment. C'était un pur régal d'avoir eu un tel échange. J'aurais pu continuer comme ça toute l'après-midi.
Merci Romain.